reprenons où nous en étions hier. Alors peut-être pour celles et ceux qui aujourd'hui nous rejoignent, le thème que je vais aborder est dans la continuité de ce que nous avons partagé hier, mais en même temps en est distinct. Donc vous arriverez facilement à prendre le train en marche. Le thème d'aujourd'hui voudrait s'intituler « Lectio Divina et conversion de vie ». Et là, je vais vous parler, donc, un petit peu, je vous avais expliqué l'essence de la Lectio Divina, qui était de nous permettre de rencontrer le Christ dans les Écritures, conviction première et fondamentale, avant même d'ouvrir le livre de la parole de Dieu pour prier. Cette rencontre avec le Seigneur ressuscité. Et comme je vous le disais, rencontrer le Christ dans sa parole doit, d'une certaine manière, nous conduire à la vivre, cette parole, à la laisser vivre en nous. Sinon, notre prière n'aura pas été complète. Si ma prière ne débouche pas sur une conversion de vie, il manque quelque chose à cette prière. Et c'est ce que je voudrais développer un petit peu avec vous aujourd'hui. Montrer, réfléchir avec vous, partager un petit peu ce lien entre prière de la Lectio Divina, de la lecture méditée de la parole de Dieu, qui doit s'épanouir dans une conversion de vie, dans la conversion, pour pouvoir porter un fruit, précisément, de conversion autour de moi. L'auditeur de la parole de Dieu, et je vous avais dit que c'était fondamental, rappelez-vous le prologue de la règle de Saint-Benoît, commence par « écoute ». Quand j'ouvre la Bible, avant même de lire, et de projeter sur le texte ce qui passe dans ma tête, ce qui m'habite en ce moment, je dois d'abord écouter. Mais cet auditeur de la parole de Dieu doit ensuite en devenir le réalisateur. D'auditeur de la parole, je dois devenir réalisateur de la parole. Et c'est seulement ainsi que la Lectio Divina va pouvoir atteindre le but, son but, le but qu'elle s'était fixé. Et quel était ce but ? Non seulement de rencontrer Jésus, cette proximité avec le Seigneur, entrer dans cette communion de cœur avec lui, mais plus profondément, d'y demeurer dans cette communion de cœur avec le Seigneur. Et c'est ça précisément l'objet premier de la Lectio Divina. C'est d'une rencontre ponctuelle à un instant donné avec le Seigneur, de pouvoir me conduire à un « demeurer en Dieu », pour reprendre le vocabulaire de l'évangile de Saint Jean. Et comment demeurer en Dieu ? Précisément, dans l'amour en acte du prochain. Montre-moi tes œuvres et je te dirai la foi que tu as, dirait Saint Jacques. Vous voyez ? Ben c'est précisément ça. Qu'est-ce qui fait que je demeure en Dieu ? C'est la vie de charité concrète en acte que je mène. Les pères de l'Église, auxquels je me référais beaucoup hier, l'avaient bien compris. Et dans leurs enseignements sur la parole de Dieu, lorsqu'ils commentent l'Écriture, ils précisent tous, que l'on ne doit jamais séparer usage contemplatif, entendez usage priant, usage contemplatif et usage pratique, en grec, praxis, de la parole de Dieu. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Et on ne doit les séparer en aucun cas. Je vous avais dit que dans la Lectio Divina, il y avait quatre étapes. Vous vous rappelez ? La lecture, la méditation, très difficile d'ailleurs à distinguer. Vous vous rappelez, elles se nourrissent l'un l'autre. Après, il y a la prière, l'oratio. Et puis après, cet état parfois de grâce qui nous est donné, de consolation, ce qu'on appelle la contemplation. Ça, c'est le moine Guy de Chartreux qui donnait ces quatre étapes. Un peu après lui, un autre père, disons, de l'Église, enfin, on est déjà au Moyen-Âge, mais bon, grand maître spirituel qui s'appelle Hugues de Saint-Victor, rajoutait une cinquième étape à la Lectio Divina, en latin, l'opératio. Opérer, mettre en acte. Vous voyez ? Comme pour nous dire que ben, si on s'arrête à la contemplation, à la consolation que l'on éprouve dans la présence du Seigneur, ben, il manque quelque chose. On n'est pas allé jusqu'au bout, entre guillemets, de l'exercice.